C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Bon, rebonjour Maud Goyer, maman 24/7.
Bonjour.
C'est la fin d'année et c'est la fin d'année, donc c'est la période des bals de finissants, mais aussi dans plusieurs écoles, ce qu'on appelle les galas méritas, où on va récompenser les élèves les plus doués. Toi, tu trouves ça merveilleux, mais tu veux donner, disons, un petit avertissement. Ça vient avec un petit côté pervers.
Oui, un petit côté pervers, Pat, parce qu'en fait, on est là souvent pour venir féliciter les résultats académiques. Donc, on vient souligner non pas nécessairement les efforts, mais les notes. Donc, on est en train de dire à notre enfant, tu mérites quelque chose, tu as travaillé fort, regarde, donc tu as un méritage, tu as un prix. Or, il y a plein d'enfants qui travaillent très fort et qui n'ont pas de méritage. Puis ça, on n'en parle jamais. Puis les parents, souvent, entre eux, ils viennent vraiment, entre eux et dans des discussions qu'ils peuvent avoir, puis sur les réseaux sociaux aussi, ils viennent vanter les mérites de leur petit lauréat. Je comprends, on est humain, on est fiers d'eux, on veut les encourager. Sauf qu'il faut faire attention, parce que souvent, les autres enfants, la fratrie, écoutent. Et c'est quoi le message qu'on envoie? Moi, ça me dérange vraiment beaucoup. Il y a des élèves qui ont des troubles d'apprentissage, il y en a qui ont des troubles de comportement, il y en a qui travaillent très fort et qui n'ont pas nécessairement des résultats. Il y en a qui s'impliquent ailleurs. Puis il y a plein d'écoles secondaires aussi qui félicitent, qui récompensent ça, là, l'implication, la progression, la persévérance, l'esprit sportif, le leadership positif. Oui, il y a plein d'affaires. Mais moi, c'est pas le méritage en tant que tel, c'est la façon dont on en parle et qu'on le valorise entre nous. Faites attention, les enfants écoutent et peuvent en venir à conclure que mon parent est fier de moi, donc il m'aime, c'est conditionnel à mes notes et à ma performance.
Oui, puis il y a toujours quelque chose d'un peu, si on exclut les maths, mettons, un peu subjectif dans les notes. Personnellement, moi, j'ai toujours demandé, écoute, je veux des efforts. T'sais, je veux pas que les profs m'appellent et me disent que le devoir est pas remis, que t'étais pas préparé. Je veux des efforts. Après ça, la note, c'est autre chose. Mais comme parent, comment est-ce qu'on fait pas une obsession là-dessus, mais qu'on banalise pas non plus le fait d'avoir des mauvaises notes?
Ben en fait, c'est une excellente question. Mais dans le fond, c'est qu'il faut voir notre enfant. C'est quoi les forces et les défis de notre enfant? Puis c'est là-dessus qu'il faut statuer. En début d'année, on peut mettre des objectifs réalistes là, que l'enfant peut atteindre, puis en parler avec lui, puis remettre une récompense par rapport à ça. C'est par rapport à justement et non les notes. Je me souviens à l'école alternative de ma fille qui était au primaire, il y avait pas de notes. Comment on faisait pour
évaluer? Il y avait pas de notes.
Aucune note. Tout son primaire, maternelle à sixième année.
Wow.
Et ça a été formidable.
Comment on plaçait une jauge pour savoir s'il est passé au niveau supérieur?
Ben en fait, c'est beaucoup par projet. Donc, tout se fait par projet, beaucoup de présentations orales, puis c'est des lettres. Donc, par exemple, P4 progresse bien, P4 progresse facilement, pardon, P3 progresse bien, P2 progresse malgré des difficultés, P1 progresse difficilement, puis après ça, tu avais des lettres F pour force, R pour réponse aux attentes, puis D pour défi.
Non, mais c'est une forme de note, ça.
Ben, sauf que tu compares pas avec les autres. L'enfant, il n'y avait pas de notes. Il y avait un genre de bulletin deux fois par année avec ça, puis il n'y avait pas de moyenne de groupe. Puis l'enfant ne pouvait pas dire en recevant son devoir, « Oh mon Dieu, j'ai 90, l'autre 70. »
Madame Beauchamp.
Je peux comprendre. Tu sais, ça, c'était l'époque aussi. Je me souviens, des bulletins, il me semble, il y avait comme des parts de gâteaux. comme ça. En tout cas, c'était un peu loufoque. Mais c'est parce que ces enfants-là vont arriver au secondaire. Moi, tu sais, je viens de terminer cette période-là avec ma fille qui va entrer à l'université, secondaire, et le cégep. Et là, c'est les histoires de cote R, tu sais. Donc, il faut qu'ils apprennent quand même un minimum à performer s'ils veulent entrer éventuellement dans un programme qui est moindrement contingenté. Fait que je me dis, est-ce que c'est pas de repousser le problème à plus tard?
Non. Parce que, en fait, les écoles alternatives, ça va super bien. La majorité, il y a eu beaucoup d'études, là, le passage d'école alternative à l'école secondaire se fait super bien, même si l'école secondaire n'est pas alternative. Et ma fille est dans une école privée et ça va super bien parce que son niveau de confiance en elle puis son estime était dans le plafond.
Puis au cégep, ça va se passer différemment.
Hein? Ben on verra, mais là, on va passer à travers 5 anneaux secondaires. Je suis pas très inquiète pour elle. C'est le sens de l'organisation que l'école alternative donne. Donc, on vit sur des valeurs de citoyens plutôt que juste des notes ou juste d'autres habiletés académiques. Puis c'est ça que j'aime et je n'ai aucun regret par rapport à l'école alternative. Je te dirais, partir avec un préjugé. Puis vraiment, je trouve que c'est une école, en fait, qui suit l'enfant. Donc, si t'en veux plus, t'en fais plus. Puis sinon, ben on t'amène vers le haut, vraiment.
J'ai une question.
Ah, as-tu le droit de parler?
Qui t'a le droit de parler, toi?
Je le prends. Est-ce que si on donne un méritage à tout le monde, le méritage ne vaut plus rien?
Non, je suis pas d'accord avec ça. Non, il vaut pas plus.
Moi, j'en
rien.
Ai jamais gagné, puis j'aurais toujours rêvé sans gagner un. Ça m'a fait me dépasser, puis ça m'a pratiqué pour la vraie vie.
J'ai eu des réponses de parents qui m'ont dit qu'il y a des miroirs de donner à pas mal tout le monde dans la classe, mais pour différentes affaires. Donc, on vient dire à l'enfant, toi, t'es bon là-dedans, on vient lui montrer, ouais. T'es bon, ta curiosité est intéressante. Et qu'est-ce que l'enfant fait quand il reçoit un miroir avec t'es bon pour ta curiosité? Il se dit, ah oui, c'est vrai, puis là, ça va le renforcer là-dedans. C'est ouais. Ça qui est intéressant. Fait, non, moi, je trouve pas que ça passe à valeur. Pas du tout.
Parce que là, on donne des miroirs à tout le monde. Tout le monde est bon, tout le monde est beau.
Pour différentes raisons.
Les fleurs, les oiseaux.
Pour différentes raisons.
J'ai peur de la vraie vie, moi, quand ça va arriver.
Le système de méritance ne me dérange pas. Encore là, c'est vraiment la façon dont on en parle entre nous qui me dérange. Puis je trouve qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut féliciter. C'est plutôt ça. Puis après ça,
on n'est pas mieux d'apprendre dans l'échec.
Ben les échecs, c'est important. Mais oui,
parce qu'on va avoir des échecs un jour dans la vie.
Attends, je pense qu'on mélange une couple d'affaires. Là. T'sais, on est des méritances,
ouais.
Mais il y a aussi la conversation entre les parents. Il y a beaucoup de parents qui se valorisent par les notes de leurs enfants. Et la traduction de ça, c'est « mon enfant à 100%, donc je suis un bon parent ». Moi, je trouve aussi que c'est un message qui est un peu
exagéré.
Tordu.
On se donne comme une tape dans le dos. Non, je veux pas exagérer ce que tu dis. Ce que je veux dire, c'est que quand tu te valorises avec les notes de ton enfant, je pense que là, il y a un problème.
Non, mais tu sais, l'enfant, quand il est fier, là, il revient à la maison, il dit « j'ai eu 85 », tu sais, puis félicitations, tu t'es dépassé. C'est aussi bon, là, non?
Oui, mais c'est qui est autour? La fratrie entend ça, puis moi, j'ai pas eu 85, mais j'ai travaillé deux fois plus. Moi, mon point, il est là. Faites attention à comment vous en parlez autour pour pas nuire aux autres non plus, puis ne pas oublier, avoir une pensée pour ceux qui travaillent fort, puis qui n'en ont pas de méritance.
C'est un beau débat.
C'est un message intéressant que tu envoies, mais les gens craignent le nivellement par le bas.
Moi aussi.
Je veux juste souligner une affaire. C'est la Finlande a, semble-t-il, le meilleur système scolaire au monde. C'est celui qui est le plus cité, là. En tout cas, un de ceux qui sont les plus cités. Et là-bas, il n'y a pas l'obsession des notes. Là, ça vient plus tard dans le parcours. Ce qui ne veut pas dire... Mais quand ils sont plus petits, là, on leur fiche un peu patience avec ça. Ça ressemble un peu à ce que tu racontais pour ta fille à l'école alternative.
L'enfant gagne en maturité. Voilà. Mais bravo à tous les enfants, tous les parents qui ont appuyé les enfants, tous les professeurs. Là, c'est la fin de l'année. On peut-tu leur dire bravo?
Vous êtes tous bons.
Oui. Oui, exactement. Merci.
Tous!
Merci.
Patrick Lagacé en accéléré.
La fin de semaine dernière a été marquée par deux drames au chapitre des noyades. Il y a un garçon de 4 ans qui s'est noyé samedi à Saint-Lambert. Un autre garçon de 5 ans lutte toujours pour sa vie, là, aux dernières nouvelles, après avoir été retrouvé inanimé dans une piscine de Repentigny dimanche. Dans les deux cas, les jeunes enfants se sont retrouvés dans des piscines résidentielles alors que les familles étaient sur place. Malheureusement, chaque année, il y a des enfants qui se noient dans des circonstances similaires au Québec. C'est pourquoi plusieurs coronaires, au fil des années, ont recommandé que les piscines soient bien clôturées et bien sécurisées. D'ailleurs, le gouvernement du Québec a mis son règlement à jour l'an passé. Là, tous les propriétaires de piscines qui bénéficiaient d'une sorte de droit acquis, une clause grand-père, comme on dit, pour les piscines construites avant 2010, étaient exemptés de mettre une clôture autour de la piscine. Ben, on leur avait donné jusqu'à 2023 pour se conformer à la nouvelle réglementation de clôture. Et là, ça a été repoussé, on l'a appris récemment, à 2025. On va parler avec une des coronaires qui a émis ces dernières années des recommandations de clôture obligatoire. Il s'agit de Maître Stéphanie Gamache. Maître Gamache, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
D'abord, je vais pas vous demander de commenter les noyades du week-end, là, mais je veux que vous racontiez aux auditeurs les circonstances du décès de l'enfant de 2 ans sur lequel vous avez enquêté en 2020.
Bien, en fait, les circonstances en lien avec ce décès-là sont essentiellement qu'il a échappé à la surveillance de ses parents. Et qu'il a eu un accès en fait à un plan d'eau qui n'était pas du tout là sur la résidence de ses parents donc il a pu accéder à la piscine et c'était en fait c'était certainement pas pour s'y baigner parce que c'était au début d'avril, il y avait encore de la glace sur la piscine et malheureusement là c'est un autre drame absolument innommable donc il est décédé dans ces circonstances-là. Donc le lien qui unit en fait ce dossier-là et beaucoup d'autres dossiers de mes collègues coronaires au fil des années, c'est vraiment en fait l'accessibilité à un plan d'eau qui est essentiellement un élément de dangerosité. et qui, pour un enfant, tu sais, un jeune enfant en plus de ça, qui n'a pas conscience du danger, ben évidemment, ça peut être dramatique.
Et c'est, ce qu'il y a de particulier, c'est que l'enfant, dans ce cas-ci, là, a parcouru plus de 100 mètres, a traversé la rue. C'était pas le voisin immédiat et c'était pas la piscine de la famille non plus, là.
Non, mais en fait, je pense que ce qui est vraiment important de retenir, c'est que dans ces circonstances-là, c'est toujours en fait un enfant qui échappe à la surveillance de ses parents pour quelques minutes, ou comme vous avez mentionné, des fois vraiment les parents sont autour, mais tout le monde fait autre chose. Et donc, ce qui est important de retenir, puis comme nous, comme coronaires, ce qu'on doit regarder dans une circonstance comme celui-là, c'est que c'est un décès accidentel, c'est un décès tragique, mais est-ce que c'était un décès évitable? Et dans toutes ces situations-là, en fait, on en vient à la conclusion que c'en était un, parce que si le plan d'eau n'avait pas été accessible, ben à ce moment-là, le décès aurait été prévenu. Et c'est dans ce contexte-là, vous l'avez expliqué là au début, que depuis l'instauration de la réglementation en 2010, ben en fait, les coronaires se sont prononcés sur le fait que, en fait, c'était illogique d'avoir un droit acquis par rapport à un plan d'eau qui va être dangereux, peu importe s'il a été construit avant 2010 ou après 2010. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que les recommandations au fil des années là, de mes collègues ont été faites dans ce sens-là. Et c'est quand même, en fait, c'est salué là, le fait que finalement, ça a été mis dans la réglementation parce que toutes les piscines municipales du Québec, résidentielles, pardon, du Québec doivent avoir le même niveau de protection.
Maître Gamache, si vous permettez, là, je vais vous lire un courriel qui représente plein de messages que j'ai reçus d'auditeurs, de lecteurs à la presse aussi, qui étaient fâchés de constater qu'en 2023, là, on sait que ça a été repoussé à 2025, ils devraient clôturer leur piscine construite avant 2010. Okay? Il y a une dame qui m'a écrit là, tout récemment, je vous informe des arguments qu'on évoque pour que les trop bien-pensants du gouvernement réalisent à quel point cette mesure vient nous dicter des contraintes radicales qui n'auront que trop peu de résultats sur la baisse des noyades comparativement aux inconvénients majeurs dans leur application. Ça, je vous le dis, là, ça trahit bien tous les messages que j'ai reçus là-dessus. J'aimerais que vous vous adressiez à ces gens-là qui ont beaucoup de réticence à clôturer leur piscine.
Écoutez, je comprends que quand on a une belle installation qui est là depuis plusieurs années puis qui s'est peut-être absolument rien passé, qu'on se demande pourquoi il faut faire ça. Mais il faut aussi regarder la réalité. Et je pense qu'il y a personne qui veut vivre un drame comme celui-là. Et puis un enfant qui échappe à la surveillance de quelqu'un, ça se passe en quelques instants. Un décès par noyade, c'est silencieux. C'est pas vrai que quelqu'un crie au secours. C'est vraiment quelque chose qui arrive rapidement. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est pas. Puis en fait, tous les coronaires dans chaque événement, comme je disais au début, il faut regarder. En fait, les recommandations qu'on fait sont toujours en lien avec un décès. Donc c'est toujours dans ce contexte-là que les recommandations sont faites. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est important, c'est que quand c'est le temps de la baignade, ben on donne accès à la piscine pour la baignade et il y a un adulte responsable sur les lieux. Mais quand ce n'est pas le temps de la baignade, ben à ce moment-là, la piscine ne devrait pas être accessible à des enfants. Puis moi, je viens d'une époque où même on se baignait à des heures fixes dans la journée parce qu'il y avait un mythe qu'on devait pas se baigner après le dîner. Alors on avait peut-être cette entre guillemets cette discipline là. Puis je suis pas en train de dire que les gens sont pas disciplinés aujourd'hui, mais je pense que en expliquant ça comme ça, c'est que le moment de la baignade, c'est un moment particulier, mais c'est un moment où l'attention des adultes qui sont autour, qui doivent surveiller les enfants, doit être uniquement vers cette activité-là. Et dans ce contexte-là, ben je pense qu'il faut sécuriser toutes les piscines pour justement prévenir des noyades comme ça. Puis je vous dirais que probablement Monsieur Hawkins là de la société de sauvetage là serait à même de donner plus de statistiques. Mais ce qui est quand même révélateur, puis là je vous donne peut-être des statistiques un petit peu plus âgées, mais en 2015 là plus du tiers là des victimes de noyades en piscine résidentielle, c'était des enfants qui étaient âgés de 5 ans ou moins. Donc, je pense que c'est une statistique qui est préoccupante et puis qui justifie cette recommandation là qui a été suivie. Et je comprends par ailleurs là les frustrations des gens qui ça va impliquer des coûts additionnels et tout. Mais je pense qu'il faut se revenir à l'essentiel par rapport à ce qu'est un plan d'eau. Puis un plan d'eau, c'est un élément de dangerosité.
Qu'est-ce que vous pensez de la décision du gouvernement du Québec de repousser à 2025 plutôt que l'année prochaine là, l'obligation de clôturer toutes les piscines?
Écoutez, je peux pas me prononcer sur ça parce que ils ont sûrement des éléments en lien avec cette décision là. Je pense que ce qui est important de reconnaître comme coroner, c'est que les recommandations qui ont été faites au fil des années ont été suivies. Maintenant, pour ce qui est de la date d'application, je m'excuse là, je peux pas me prononcer là-dessus là. C'est pas tout à fait dans le mandat du coroner là de se prononcer sur un rapport d'échéance.
Pas de problème. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maître Gamache. Bonne journée.
Merci à vous. Au revoir.
Sophie Gamache, coroner. Et sur une note un peu plus légère, la coroner disait qu'il y avait ce mythe quand on était jeune qu'on ne pouvait pas. Chez nous, c'était une heure après avoir mangé, même dans la piscine hors terre. Si tu mangeais un sandwich au jambon puis que tu allais te baigner, même si tu devais nager, il y avait ce risque que tu pognes une crampe qui allait être mortelle. Tu comprends?
Et nous, on nous obligés à mettre le gilet de sécurité autour de la piscine. Nos parents ne démordaient pas de ça.
C'est les mêmes parents qui te laissaient pas t'attacher en arrière de l'auto.
C'est ça.
Il y a des organismes de Montréal qui ont lancé un appel à l'aide aujourd'hui. Et je pense que c'est important de les accueillir à l'émission pour parler justement de la situation des banques alimentaires. Écoutez, même hors des temps d'inflation, les banques alimentaires signalaient avoir des problèmes à avoir des dons, à avoir des denrées pour répondre à la demande de tous ceux qui viennent cogner à leur porte. Mais là, c'est pire en temps d'inflation. Et c'est pas juste à Montréal, c'est un peu partout au Québec. On a reçu des gens de Moisson Montréal il y a quelque temps. C'est le même discours. On a besoin d'aide, on a besoin d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de gens qui cognent à nos portes depuis quelques mois. On accueille en studio Annick Reinhardt, elle est chargée de concertation à la Corporation de développement communautaire, la CDC du Centre-Sud, et Julien Scott, directeur information alimentaire populaire Centre-Sud. Bonjour à vous deux.
Salut.
Merci d'être là. D'abord, ce communiqué de presse-là, c'est un cri du cœur. Moi, je l'ai lu comme ça. Les témoignages qui étaient là-dedans, ça brisait le cœur, je vous le dis.
Ben, en fait, c'est une accumulation de plusieurs années dans le milieu de la sécurité alimentaire. C'est un secteur qui est sous-financé. Il y a aussi tout le contexte actuel, c'est-à-dire pandémie, crise sanitaire qui a fait exploser les demandes d'aide. Bon, on entend, puis on le voit aussi pour nous, le prix des aliments qui augmente aussi. Il y a aussi toutes les spécificités de notre quartier, c'est-à-dire c'est un désert alimentaire, puis Centre-Sud, il y a aussi tout le... il y a des gens extraordinaires, mais c'est aussi beaucoup de personnes vulnérables qui habitent ce quartier-là. Donc, cumulé à tout ça, toute la pression sur les organismes communautaires là, par rapport à leur financement.
Julien Scott, donnez-nous, s'il vous plaît, un aperçu quantitatif de l'augmentation des demandes auxquelles vous faites face.
Ben essentiellement, à information alimentaire, on parle de 50 % d'augmentation au niveau des demandes de dépannage alimentaire. Donc, ça met une pression énorme sur une équipe qui est extrêmement réduite. Et à information alimentaire, avec le début de la pandémie, on a pris la décision de livrer directement les gens à leur domicile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient des problèmes de mobilité, des problèmes avec tout ce qui était politique sanitaire aussi, que les personnes plus âgées pouvaient pas sortir. Oui. Donc, nous, on a décidé de livrer les gens. Donc, on a passé, au niveau des livraisons, on a une augmentation de 325 %, là. Donc, on fait 100 livraisons par semaine.
OK, mais au chapitre du nombre de la hausse de la demande, ça a augmenté aussi. Là.
Effectivement. Une année moyenne, là, ça tournait autour de 15 000 dépannages annuellement. On était à 23 000 en 2020-2021.
Qu'est-ce que les gens vous disent pour expliquer pourquoi ils ont besoin de vos services?
Ben, essentiellement, ça vient avec tous les problèmes économiques qui étaient reliés à la pandémie. Il y a beaucoup de personnes qui ont souffert de la perte d'emploi temporaire ou plus permanente. Puis ensuite la perte du travail, ensuite tous les augmentations, en fait là, on parle de l'inflation, on parle des logements qui augmentent, donc la nourriture
tout augmente là.
Ben la nourriture c'est une des seules dépenses compressibles, donc les gens ils sacrifient là-dessus, donc ils payent leur loyer mais ensuite ils ont un logement mais ils peuvent crever de faim dans leur logement finalement.
Crever de faim, donc tu payes ton logement mais t'as rien à te mettre sous la dent.
Effectivement.
OK. Annick, parlons de financement. Qui vous finance à hauteur de combien?
Ben c'est sûr que là, le financement qu'on reçoit, c'est de différentes enveloppes. Mais dans notre quartier, spécifiquement, nos demandes des organismes se chiffrent à environ 3 millions. Puis il y a encore un million de manque à gagner auprès de ces organismes-là pour remplir leur mission de base qui est de nourrir des gens. Fait que dans le fond, notre demande s'articule à rehausser le financement à la mission pour que ces gens-là puissent faire ce pour quoi ils sont là au quotidien, c'est-à-dire nourrir des gens.
OK. Julien, je pense que vous avez perdu une subvention récemment.
Oui, tout à fait. Nous, depuis 17 années, on collaborait avec Vers un chez soi, qui était notre deuxième plus gros bailleur de fonds. Cette année, c'était la nouvelle année d'un nouveau cycle pour le financement de projets. Et on n'a pas été accepté. Donc, la plus grande banque alimentaire de Centre-Sud a perdu 42,5% de son financement d'un coup. Ça nous met dans une fragilité financière énorme.
Donc, c'est une subvention, je comprends bien, là, une aide financière de 97 000 $.
Exactement.
Là, vous venez de perdre quasiment la moitié du budget.
Exactement.
Est-ce que vous avez des fonds? Vers chez soi, est-ce que c'est le gouvernement, ça?
Vers un chez soi, c'est un fonds fédéral qui est géré depuis 7 années par le provincial.
OK. Puis est-ce que Québec, ça c'est géré, mais est-ce que Québec donne de l'argent directement?
En fait, non. Vers un chez soi, c'est un portefeuille qui est dédié à l'itinérance, aux gens à risque de l'itinérance. Le problème fondamental, à mon avis, par rapport au financement des organismes communautaires, c'est le PSOC. C'est le programme de soutien aux organismes communautaires. Donc, c'est du financement à la mission. Les organismes, tous les directeurs d'organismes comme moi passent un temps fou au niveau de la recherche de financement et c'est des financements qui sont tout le temps par projet. Avec le PSOC, c'est un financement à la mission. Donc, ça permet aux organismes de faire ce qu'ils doivent faire pour aider, pour améliorer la condition des gens qui habitent le territoire.
Annick, je dis insécurité alimentaire, puis je sais pas si c'est le bon terme, mais il me semble c'est quand même un terme qui est un peu, je m'en excuse, là, un peu désincarné. Donnez aux auditeurs là, un exemple de la réalité qui est derrière le terme insécurité alimentaire. C'est quoi les choix que vous faites? C'est quoi les choix que les gens qui comptent sur vous doivent faire?
Bien, c'est sûr que cette tribune-là, ce message qu'on porte là aujourd'hui, c'est un ensemble d'organismes qui est la table Cigale ou la table de sécurité alimentaire de notre quartier qui se sont mobilisés. Puis le message d'insécurité ou ce que Julien nomme, c'est pas juste le fait d'un organisme, c'est l'ensemble des organismes qui se disent nous, on entend la détresse humaine des gens qui sont pas capables de se nourrir et nous, organismes, on nous demande de faire plus avec moins. Fait que, tu sais, l'insécurité alimentaire, oui, chez les gens, mais ça se répercute aussi chez les gens qui desservent ces gens-là. Fait ça peut être pris, comme tu dis, galvaudé, mais ça va au-delà de ça. Là. C'est des humains d'abord et avant tout. Et puis, on n'arrive pas à répondre à leurs besoins adéquatement.
Et un peu plus tard à l'émission, on va recevoir le chroniqueur Jean-François Nadeau du Devoir qui a écrit un livre qui parle beaucoup de pauvreté, qui parle beaucoup des inégalités. Est-ce qu'on parle assez de la faim dans notre société?
En fait, moi, je pense que la sécurité alimentaire ou l'insécurité alimentaire tombe dans les cracks du divan. C'est un domaine qui est sous-financé depuis extrêmement longtemps. C'est comme si la nourriture, c'était pas important, ça avait pas une place importante dans nos vies. Puis ça fait de nombreuses années là que les organismes communautaires en sécurité alimentaire se plaignent et revendiquent une augmentation du financement.
Annick, le mot de la fin.
Ben, en fait, le message qu'on veut passer, c'est vraiment, tu sais, dans le fond, le rehaussement du financement de notre mission, ça retourne dans la bouche des gens, c'est-à-dire que notre but, c'est de nourrir des gens, puis les organismes, c'est vraiment faire plus avec moins, c'est-à-dire que la demande continue d'exploser, les gens viennent nous voir, on a des demandes d'aide alimentaire qui explosent, mais on n'a pas l'argent qui suit pour pouvoir répondre à ces besoins et cette demande-là, donc c'est pour ça qu'on s'est mobilisé pour porter ce message-là encore haut et fort auprès de tout le monde.
Ben merci. J'espère que le message va être entendu. Je le souligne, c'est pas la première fois que les organismes communautaires lancent des appels à l'aide sur leur financement, sur leur budget pour aider le monde. Si vous étiez pas là, et je sais que vous faites des miracles avec des peanuts, là, si vous étiez pas là, il y aurait beaucoup, beaucoup de monde dans le trouble, dans bien des pans de la société. Merci de nous voir
merci
en
à
studio.
Vous,
Annick Reinhardt, qui est chargée de concertation à la Corporation de développement communautaire Centre-Sud, et Julien Scott, directeur information alimentaire populaire Centre-Sud.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Bon, on va parler géologie, parce que hier, à l'Abbé, au Saguenay, il y a une maison qui a été emportée par un glissement de terrain. Les images sont spectaculaires, sont d'ailleurs disponibles sur le site du 985fm.ca. Il y a deux dizaines d'autres maisons qui ont été évacuées. Semble-t-il que le Québec est un endroit reconnu là, dans le monde pour ses nombreux glissements de terrain. Il y en aurait entre 150 et 200 par année. Michel Lamotte est professeur de géologie à l'UQAM. Professeur Lamotte, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Patrick.
D'abord, c'est quoi un glissement de terrain?
OK, un glissement de terrain, on pourrait définir ça là, vraiment comme une portion de surface terrestre, de matériaux terrestres là, qui va glisser le long d'une surface, là, le long d'un talus, puis qui montre, la translation de matériel qui était assez haut dans le paysage et qui descend sur une pente. Là,
OK.
Et qui va provoquer, évidemment, un changement dans la nature des... la stabilité des matériaux.
Question de profane, c'est quoi un talus? C'est une pente?
Oui, le talus, c'est vraiment l'extrémité. En fait, il y a une surface horizontale. Là. Normalement, on voit ça dans les basses-terres du Saint-Laurent. Entre autres, on dit ça des basses-terres. Mais quand on arrive aux rivières, il y a toujours un talus. C'est l'endroit où la rivière a érodé la surface originale, qui était une surface constituée d'argile. Là. Et donc, le talus, c'est la pente. Et c'est une façon, c'est un pléonasme. En fait, on parle des fois aussi de la pente du talus. C'est-à-dire, le talus, c'est la fin de la surface horizontale. Et donc, on appelle ça aussi, nous, plus scientifiquement, une rupture de pente. La pente change.
OK. Et qu'est-ce qui vous frappe particulièrement sur ce qui s'est passé à l'Abbé hier?
Ben, en fait, je dirais que ce qui est frappant, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont frappantes dans un sens où on s'attend à avoir des glissements de terrain dans tous les terrains qui sont de nature argileuse au Québec. Là, puis il y en a beaucoup, là, d'Ottawa à Montréal. À Québec, là, si vous promenez en avion, vous allez voir des milliers de cicatrices de glissement dans des terrains qui sont identiques à celui qui a glissé hier. Donc ça, il n'y a rien de surprenant. Ce qui est un peu, je dirais, ce qui frappe l'imaginaire, c'est le fait que ça se produit dans une zone en ville, en fait, dans une municipalité où il y a beaucoup de béton, il y a beaucoup d'infrastructures. Normalement, les glissements de terrain dont on entend beaucoup parler, en fait, pas dont on entend beaucoup parler, mais ceux qui sont très, très fréquents, là, ils sont dans les zones agricoles. Là. Et donc, c'est pour ça qu'on en entend un peu moins parler, sauf comme à Saint-Jules, là, où il y a eu 4 décès. Là,
oui,
on se rappelle, en 2010, c'est une zone agricole classique, glissement de terrain. Alors que là, il faut quand même dire, hein, je veux quand même le dire, là, je trouve que la municipalité et le ministère impliqué, là, Sécurité publique, Transport, ont quand même prévenu le pire. Hein, donc, il n'y a pas eu de série. Donc, ça, je pense que c'est vraiment... C'est peut-être ça qui est surprenant, d'ailleurs, en passant. Il n'y a
oui.
eu aucun décès.
Parce qu'il n'y a pas de décès. Si j'ai bien compris, il y a des maisons, dont celle-ci là, qui a glissé, qui avait été évacuée dès le mois d'avril. Donc, il y avait des signes. Les signes avant-coureurs, Michel Lamotte, quels sont-ils, les signes avant-coureurs d'un glissement de terrain?
Les signes avant-coureurs, c'est essentiellement des surfaces de rupture. C'est comme les gens appellent ça des petites failles dans le terrain qui vont se produire. Et on les voit apparaître. L'année d'avant, ils sont pas là. Puis, hop, on voit que, hop, la fin, il y a une rupture dans le sol, qui est un sol toujours un peu sableux, argileux. Mmh. Donc, c'est pas des ruptures droites, là. C'est des ruptures qui sont courbées un peu. j'ai entendu un reportage d'une dame qui dit que sa corde à linge était tombée. Elle était défaite. Un des deux poteaux était tombé. Donc, c'était un signe indicateur, ça. Et si on voit, par exemple, qu'un petit affaissement sur un côté, ça, c'est un signe là qu'il y a peut-être quelque chose de terrible qui peut se passer. Et donc, c'est bon aussi, les citoyens ont été assez vigilants, là. Et donc, on a pu éviter le pire. Ceci étant dit, il aurait pu ne rien avoir. Hein. Il faut dire que les pluies, apparemment, là, étant donné qu'elles ont été tellement, tellement intenses au mois de juin, c'est autant que la valeur moyenne de tous les printemps là, qu'on connaît dans ce coin-là. Les pluies ensuite vont contribuer en fait à ouvrir ces zones de rupture-là, ces fractures-là, et vont fragiliser le sol. Parce qu'ils vont réduire de plus en plus la cohésion du sol. Parce que ces sols d'argile-là sont quand même cohésifs jusqu'à un certain point, ils ont une certaine résistance. Mais quand il y a des événements de cette nature-là, ils vont perdre leur résistance. Et là, il y a une possibilité que l'ensemble glisse et parte soit une coulée de boue, soit juste un glissement. Nous, on l'appelle rotationnel. Autrement dit, il y a un bloc qui glisse. Des fois, c'est les deux en même temps. Mais c'est difficile, évidemment. C'est ce que les gens font présentement. Là. Les gens d'UNICEF sont en train d'étudier la nature même du glissement. Probablement, regardez les ondes de pression, la pression des eaux souterraines, les pressions hydrostatiques autour du site, etc.
Si je comprends bien, pluie abondante, ça vient... Non, je vais reformuler ça. Quand il y a un glissement de terrain, si je comprends bien, Michel Lamotte, il y a généralement eu des pluies abondantes peu avant.
Souvent. Mais c'est pas uniquement, parce que là, on est en zone, évidemment, urbaine. Comme je dis, c'est ça qui est un peu surprenant. Oui. Mais normalement, dans une zone, je dirais, où il y a beaucoup de glissements de terrain, ça peut être, par exemple, des fortes inondations avec le niveau d'une rivière qui monte et qui va éroder la base du talus. Et au lieu d'avoir une pente, disons, de 30 degrés, on se retrouve avec une pente de 40, 45 degrés et ça devient instable. Mais si le niveau de la rivière est élevé, c'est parce qu'il y a eu des pluies abondantes aussi. Donc, mais il peut y avoir, par exemple, je vais donner un autre exemple, il peut y avoir des tremblements de terre au Québec qui sont assez fréquents, et un tremblement de terre peut induire un glissement de terrain aussi. Mais les pluies abondantes du printemps sont un facteur assez commun, parce que quand on regarde à peu près tous les glissements de terrain importants au Québec, presque tous ont lieu au printemps. C'est assez... pas tous, mais beaucoup.
Est-ce que quand vous vous promenez sur le territoire là, comme géologue, est-ce qu'il y a des endroits où vous vous dites « Ah, on n'aurait peut-être pas dû construire là? »
Oui, toujours, souvent. Parce qu'en fait, il faut pas oublier aussi que dans beaucoup de régions, premièrement, on a construit souvent des maisons avant qu'on se rende compte, d'après le fameux grand glissement de terrain de Saint-Jean-Bienil.
En 71.
En 71, avec 31 décès. On s'est dit « Il faut vraiment préparer des cartes qui avait déjà été quand même élaboré en partie, là, des cartes de prévention de glissement de terrain. Mais souvent, les maisons étaient déjà construites. Mais aussi, dans beaucoup d'autres secteurs, les zones, il y a des maisons qui ont été construites loin d'un talus. Hein. Il y a des règles qui existent à telle distance du talus par rapport à sa hauteur. Mais maintenant, s'il y a eu de l'érosion par les rivières, par exemple, le talus peut se rapprocher de la maison. Et là, on peut dire, hey, j'aurais jamais construit ma maison là. Mais la maison n'était pas aussi près du talus ici au départ. Mais il y a effectivement, vous savez, il y a un cadre là, normatif. Là, les MRC maintenant doivent suivre un cadre où, pour ce qui est des nouvelles constructions, on doit respecter les contraintes qui sont liées aux cartes de glissement de terrain, aux cartes de susceptibilité de glissement de terrain. Il ne faut pas dire que ça va glisser partout. On ne peut pas le prédire à 100%. Mais on peut être presque certain que dans une certaine région, il va y avoir un certain pourcentage de terrain qui vont bouger si ça répond à des géométries X, Y, Z. Donc, je pense que dans le futur, évidemment, il va falloir respecter ces critères-là. Comme je dis toujours, faut écouter les experts. Hein. Je notais d'ailleurs, j'ai des collègues moi qui sont des spécialistes là, justement de certains différents terrains avec qui j'étais la semaine passée. Ils sont en congrès aujourd'hui à Québec sur un grand congrès international qui s'appelle Géorisque. Et demain, ils vont voir un glissement de terrain. Et qui n'est pas celui de l'abbé, évidemment.
Très bien.
Ce que je veux dire, c'est que c'est les experts, il faut qu'on les écoute, hein, parce que les changements climatiques sont à nos portes.
Merci beaucoup, Michel Lamotte, pour le cours de géologie du glissement de terrain. Je vous souhaite une bonne journée.
Patrick Lagacé, en accéléré.
c'est 23.